Louis de Bernis, chronique insolite avec vous. Vous nous parlez de 20 aventuriers qui n'ont vraiment pas froid aux yeux. En tout cas, moi, je les trouve extrêmement courageux.
Oui, ils ont eu chaud, très, très froid. C'est une histoire de température, ça c'est certain. Ils ont eu donc très chaud, très froid et ils continuent. 10 femmes et 10 hommes de la mission Deep Climate ont parcouru, dans un premier temps, l'Amazonie fin 2022. Ils ont pu récemment affronter le froid en Laponie en mars 2023. Et bien aujourd'hui, ils repassent dans le chaud, ils arrivent en Arabie Saoudite où ils marcheront en autonomie durant 40 jours en tirant chacun un chariot en plus.
Ça veut dire quoi, marcher en autonomie?
C'est-à-dire couper du monde extérieur et devant se débrouiller eux-mêmes.
Ils ont
des ressources dans les chariots, ils ont du matériel, ouais. De la nourriture, mais voilà.
Des vrais aventuriers.
Couper du monde, c'est ça, exactement. Ces expéditions permettent d'étudier les humains plongés dans des conditions difficiles, explique l'explorateur et chercheur Christian Clos. Nous observons comment ils s'adaptent individuellement et socialement. Nicolas Ngo est l'un des équipiers en Guyane durant 5 semaines sur la rivière Mataroni. Il a vécu des moments très difficiles. Piqué, handicapé par des mycoses liées à l'humidité, plein de choses assez désagréables, mais aussi des moments de grâce. Monté sur un rocher, il a vu la canopée à 360 degrés, le soleil qui se lève sur l'immensité de verdure et les rivières de brume, décrit-il. C'est si beau que le silence s'impose.
Faut souffrir pour voir du beau.
Exactement. quelques mois plus tard, tirant à ski son traîneau en Finlande, où la température a chuté jusqu'à moins 35 degrés, il ne sentait plus ses mains. Mais il a admiré des aurores boréales féeriques,
bien ouais.
Des arbres couverts de givre, d'une beauté à pleurer.
Aïe, aïe, c'est beau, aïe.
Sélectionné parmi des milliers de candidatures, les explorateurs âgés de 26 à 52 ans ont des profils très différents. Certains travaillent en entreprise, une infirmière, un agent de sécurité. Ils n'avaient en tout cas tous jamais affronté de telles températures. Ils sont suivis par des scientifiques, beaucoup de scientifiques, une quarantaine, des neurologues, des médecins, des sociologues aussi. Les aventuriers volontaires marchent pour la science. Avant et pendant chaque mission, ils subissent des tests et suivent des protocoles précis. Leur activité cérébrale est mesurée pour savoir comment le cerveau réagit dans des climats proches de ceux du futur, plus chauds ou avec des périodes de froid intenses. Le but est de préparer demain. L'esprit d'équipe est étudié également. Un humain seul est démuni car nous avons tous nos fragilités, mais à plusieurs, il y a toujours une solution. Diane Durand a notamment vécu cette solidarité. La très forte cohésion m'a permis de tenir en Laponie où j'ai beaucoup souffert. En Amazonie, c'est pourtant elle qui soutenait le moral des autres en portant plus de charges que ses camarades et en organisant les radeaux gonflables. Le rôle de chacun évolue selon les milieux, conclut-elle. La bienveillance et le soutien du groupe étaient exceptionnels. Ces recherches révéleront notamment comment s'organise un groupe coupé du monde. Aucune communication vers les proches n'est possible, ils sont en complète autonomie. Cette expérience d'isolement intéresse notamment le Centre National d'Études Spatiales, partenaire de cette mission Deep Climate, pour préparer les prochaines explorations spatiales, peut-être sur Mars un jour. Chaque explorateur est équipé d'un sociomètre, un objet qui mesure la distance entre les personnes et analyse si des personnes se parlent. Les données sont anonymisées, étudiées par un éthologue et utilisées pour la première fois dans une grande expédition. Ce sociomètre, cet outil, complète les entretiens qualitatifs et les questionnaires auxquels ils doivent répondre. Cela donne une vraie cartographie des relations sociales au cœur de cette expérience. Pour l'explorateur Christian Clos, chacun peut s'adapter à des conditions extrêmes, mais l'un des piliers de l'adaptation est la coopération, ce que les données des sociomètres peuvent mesurer. Une autre clé pour s'adapter, c'est l'émerveillement. Ce déclic, à un moment donné évoqué par les explorateurs, c'est le plaisir de vivre dans de nouvelles conditions, certes très difficiles, mais où l'on veut construire un futur possible ensemble et on veut survivre, tout simplement. Les équipiers de Deep Climate s'adaptent à des aléas climatiques accélérés. On peut peut-être trouver un remède à la solastalgie, la détresse psychologique liée à la perte de leur environnement naturel habituel. Voilà pour le nouveau mot du jour. Et pour ces explorateurs qui ne sont pas au bout de leur peine,
non.
Mais semble-t-il sont émerveillés par ce qui leur arrive.
Et je ne sais pas si vous connaissez le groupe Solastalgie. On va entendre une pièce de ce groupe tantôt, Montmorency.
très bien.
Le miracle de la radio. Il y a des coïncidences comme ça dans la vie. Autre sujet, un trou qui est le plus profond du monde. Il se trouve où?
Oui, une histoire qui est sortie un peu de nulle part, mais elle est tombée sous mes yeux. Oui, un trou très très profond et qui se trouve en Russie. Et je vous raconte un peu cette histoire. Il descend à plus de 12 km sous la surface terrestre. 12 262 mètres pour être très précis. C'est le puits de référence super profond expérimental de Kola, appelé aussi SG3, dans la région de Mourmansk en Russie. À titre de comparaison, cela équivaut à près de 38 tours Eiffel, ou 132 statues de la Liberté, ou 122 terrains de football, ou 3 millions de balles de ping-pong, ou encore 1,3 mont Everest sous la surface terrestre. Vous comprenez, c'est profond.
C'est creux.
La profondeur de ce trou, dont le forage a été arrêté en 1995, n'a jamais été égalée depuis. Mais revenons un peu à l'origine du projet. Tout a commencé en 1970. À l'époque, ça part d'une idée quand même un peu amusante. L'Union soviétique vient de perdre la bataille de l'espace, puisque l'Américain Neil Armstrong a marché sur la Lune le 21 juillet 1969. Eh bien, tant pis, les Soviétiques gagneront une autre bataille, celle du trou le plus profond jamais creusé. C'était l'époque de la guerre froide et les challenges, les compétitions de ce type-là.
Mon père est plus fort que le tien.
Exactement. Les Américains avaient également fait une tentative avant ça, c'était le projet Mohol dans les années 60, entre 1961 et 66, un trou près de l'île de Guadalupe au Mexique qui avait atteint les 3653 mètres de profondeur. Mais les Soviétiques sont plus ambitieux. Ils se fixent pour objectif d'atteindre les 15 km de profondeur. On parle d'un petit trou, hein, 23 cm de diamètre, un peu moins d'un pied de diamètre. Donc c'est vraiment un forage en fait. Hein. Mm-hmm. Faut pas imaginer une énorme mine à ciel ouvert.
Mais on peut imaginer une énorme carotte.
Exactement, une immense carotte. Le tout commence le 24 mai 1970. Il commence à forer. Les 22 années qui ont suivi le début de ce projet, les scientifiques ont creusé sans relâche. Le record mondial de profondeur, qui détenu à l'époque par le trou Bertha Rogers, creusé pour chercher du pétrole aux États-Unis, il était alors de 9583 mètres, très profond déjà, eh bien ils l'ont battu le 6 juin 1979. Les scientifiques étaient aux aguets, selon Petr Skufin, scientifique à l'Institut géologique du Centre à l'époque. Ils souhaitaient étudier la structure terrestre, la composition des sols et améliorer aussi les techniques et les technologies de forage ultra profond. Et ils ont fait, ben, forcément, pas mal de découvertes le long de ce forage. D'abord, un ensemble de fossiles microscopiques de 24 espèces de plancton unicellulaires, morts depuis longtemps, trouvés tout le long du forage. Jusqu'à environ 6,7 km. Ensuite, ils trouvent également de l'eau provenant de minéraux de la croûte profonde qui n'ont jamais réussi à atteindre la surface à cause d'une couche de roche imperméable. Il y avait donc aussi de l'eau sous nos pieds. En 1983, la foreuse a dépassé les 12 000 mètres, mais les problèmes commencent à s'accumuler. 1984, après avoir creusé jusqu'à 12 000 mètres, une section un train de tige s'est tordu et est resté bloqué dans le trou. Assemblé à partir de tiges de forage en alliage d'aluminium spécial ultra résistant et placé dans une boue de forage lestée, le train de tige finit cependant par ne pas résister à ces charges énormes parce que ça pèse énormément et il commence donc à se tordre comme du caoutchouc. Dernière découverte, ils sont surpris par la température, les scientifiques. Ils pensaient qu'elle tournerait autour de 100 degrés Celsius à 12 km. Eh bien, elle était de 180 degrés Celsius. On commence à s'approcher des profondeurs et donc la température augmente. Voilà, le projet finit par prendre fin, comme on s'en doute, avec la chute de l'URSS. En 1991, le projet reçoit le coup de grâce. Aujourd'hui, le centre est complètement à l'abandon. Il y a des photos qui, sur Internet, sont des ruines. En fait, le trou a été scellé.
Ah ouais.
Il y a des bâtiments en ruine, mais c'est amusant de se dire que dans cet espace au milieu de nulle part, c'est là que se trouve le trou le plus profond du monde.
Alors, est-ce que ça va attirer les touristes?
C'est une région très reculée de la Russie, quand même. Bon courage si vous voulez aller prendre des photos.
Alors, on a eu chaud, on a eu froid et on a eu le vertige. Merci beaucoup, Louis de Bernis. Bonne semaine, plaisir. À très bientôt.